Nous allons continuer d'entrer dans le grand mystère de l'Eucharistie en essayant de comprendre comment l'Église, progressivement, alors je vous ai renvoyé à l'histoire du mystère de l'Eucharistie et la caricature de l'histoire avec Charlot, faut pas l'oublier, parce qu'il faut lire ça. Ça vaut la peine, ça vaut. Pas une lecture de réfectoire, parce que ça ferait trop rire, mais c'est une lecture qu'on doit avoir lue, parce que ça a fait un peu de bruit à ce moment-là. Ça a fait même pas mal de bruit. Alors, c'est intéressant de voir comment on peut donner une herméneutique de l'histoire. Sous ce point de vue-là, c'est un chef-d'œuvre. Oui, on donne une herméneutique de l'histoire pour essayer d'implanter une thèse. L'Eucharistie a été inventée par l'Église pour l'unité de l'Église. En gros, c'est ça. Alors, revenons à la source, et puis comprenons que c'est pas ça du tout. Alors, on peut, au contraire, essayer de comprendre la prise de conscience de l'Église, progressivement, évidemment, dans sa perspective, le Concile de Trente, vous comprenez bien, c'est le durcissement par la
crise. Immédiatement. Et quelqu'un qui est dans l'assistance, évidemment, il est en dehors du sacrement, comme ça.
Est-ce que, du côté du
que si on regarde attentivement, le Concile de Trente est quelque chose de très grand, comme prise de conscience de l'Église face à une secousse qui a été très très forte. Et la secousse par rapport à l'Orient est peu de chose, hein. Comparativement à la secousse beaucoup plus profonde, préparée depuis longtemps, préparée depuis Occam. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Parce que c'est contre le point de vue de la scolastique décadente, contre la logique, que s'est insurgé le point de vue de Luther. À ce point de vue-là, il y a quelque chose de juste. N'est-ce pas ? L'anniversaire de Luther, hein, j'ai dit ici. Alors il s'agit de bien le fêter, en comprenant ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de faux. Et des protestants luthériens et calvinistes de bonne foi m'ont dit que si le Concile de Trente avait eu lieu avant, il n'y aurait pas eu la réforme. Vous voyez, c'est cette chose très curieuse. Donc, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu à ce moment-là, dans l'Église, une prise de conscience très aiguë d'une reprendre les choses plus profondément et les remettre dans l'ordre. Et c'est la grandeur du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est le concile dogmatique, par exemple. C'est l'Isaïe de l'Église, vous voyez. Si je mets le parallélisme avec les prophètes, hein. Le prophète Isaïe, c'est le prophète par excellence au point de vue doctrine. Eh bien, parmi tous les conciles, le Concile de Trente, c'est le concile dogmatique par excellence. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas parce que c'est le concile vraiment où l'Église reprend la grandeur du dogme et où l'Église se sert de saint Thomas d'une manière étonnante. C'est un concile qui est dans la ligne, si vous voulez, si j'ose dire, dans la ligne. C'est saint Thomas qui prépare le Concile de Trente. Il est celui qui annonce et qui montre la grandeur du Concile de Trente. Il faut à tout prix, hein, pendant le temps de ses études théologiques, avoir lu le Concile de Trente. Hein, ainsi que Vatican II. Vatican II, on doit le lire régulièrement, parce que c'est important pour nous. Et pendant les études théologiques, hein, implique la lecture des décisions de l'Église. Vous voyez, la foi catholique, c'est bon de lire ça, parce que c'est des textes qui sont d'abord, ils sont dits en français, alors ça va très bien, mais c'est des textes qu'il faut avoir lus. Alors, je ne dis pas qu'il faut lire depuis le début jusqu'à la fin, on aurait une petite indigestion dogmatique qui n'irait pas, mais de temps en temps le consulter et essayer de ponctuer, parce que c'est quand même intéressant, de se faire à soi-même une petite histoire de l'Église ponctuée par les dogmes, ponctuée par les conciles. Les rectifications, le coup de barre à droite, le coup de barre à gauche, au dire de Catherine de Sienne, n'est-ce pas ? Et c'est ça le concile. On sait que le concile implique une mission de l'Esprit Saint particulière pour l'Église. Donc il y a vraiment l'Esprit Saint qui intervient et qui rectifie. Et qui remet les choses, la barque de Pierre, à peu près droite. Alors que de temps en temps, elle pique du nez, ou elle s'élève au-dessus, et ainsi de suite. Alors il faut la remettre. C'est normal, puisque Dieu fait confiance aux hommes. Et les hommes ne sont pas infaillibles. Alors l'Esprit Saint est là, lui, il est source d'infaillibilité. Et les conciles sont source d'infaillibilité. Tous les conciles, même Vatican II, ils sont infaillibles. Et quand on dit alors c'est pas de la doctrine, mais c'est autre chose, l'infaillibilité, c'est une vie. Et le concile n'est pas nécessairement à préciser tel ou tel dogme, il oriente une manière de vivre. Et je vous ai dit, Vatican II, c'est le concile de la charité fraternelle, beaucoup plus. Et de la vie de l'Église dans ce qu'elle a de plus fort dans le cœur de Marie. C'est le concile qui parle le plus de la Vierge Marie. Et c'est le concile qui redonne l'intériorité face aux grandes luttes terminales, apocalyptiques. J'en suis persuadé. On ne peut pas le dire de façon absolue, parce que je ne sais pas quand reviendra le Christ, dans sa gloire, mais on peut pressentir que c'est vraiment le concile qui nous demande la charité fraternelle d'une façon beaucoup plus forte, parce qu'un frère lié à son frère est comme une forteresse. Alors toutes les petites rivalités demandent d'être dépassées. Et c'est pour ça que Vatican II a suscité de telles rivalités. Parce que le démon a empêché, c'est ce que le Saint-Esprit voulait, cette grande unité. Alors dans le Concile de Trente, il y a la perle. Et la perle du Concile de Trente, c'est évidemment le traité de l'Eucharistie. Ça, c'est sûr. C'est le traité de l'Eucharistie qui est la perle. Je vous lis quelques passages pour être sûr que vous puissiez les avoir lus, hein, parce que c'est quand même intéressant. Je vais vous lire quelques passages. Donc la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Puis nous réfléchirons après pour comprendre comment le geste du Christ, puisque c'est ça qu'il faut saisir, le geste du Christ a été précisé par l'Église. C'est l'Église qui nous fait comprendre ce que c'est qu'un sacrement. Jésus, avant l'institution de l'Eucharistie, nous a pas dit, eh bien, je vais réaliser un sacrement nouveau. Il n'a pas dit ça du tout. Il a fait un geste. Et l'Église a compris qu'est-ce que c'était que ce geste. En réalité, c'est le sacrement. Alors, Le sacrement a été, on en a parlé bien avant, vous voyez, dans saint Augustin. C'est peut-être saint Augustin qui est l'auteur ordinairement, je crois qu'on le dit encore aujourd'hui, parce que ces choses-là, ça change. Mais je crois que c'est saint Augustin qui est celui qui montre le mieux ce que c'est que le sacrement. Parce qu'il donne l'aspect le plus générique du sacrement. Alors après, on a précisé le sacrement, uniquement les sacrements. Et aujourd'hui, on revient un aspect plus augustinien de donner le sacrement, l'Église et sacrement. Donc on donne la réalité du sacrement dans toute sa réalité. Donc au fond, le sacrement, c'est le geste, un geste divin. C'est pas une parole, c'est un geste divin. C'est quelque chose qui se manifeste, qui se montre symboliquement, qui a une signification symbolique, donc une expression. Ça exprime quelque chose, il y a un mystère caché dedans. Et il y a en même temps une efficacité à l'intérieur de cette manifestation, puisque c'est les deux qui se retrouvent. Hein. Le sacrement, c'est l'union, vous voyez, très profonde. Hein. Il y a deux axes, toujours. Le propre du sacrement, c'est d'unir deux axes, la synthèse de deux axes. Hein. L'axe du symbole, du signe, et l'axe de l'efficacité. Une efficacité instrumentale. Parce que le sacrement est source de grâce. Et dans ce sens-là, on dira que l'Église est sacrement. On peut dire que le Christ est sacrement. Il est sacrement du Père. Parce qu'il manifeste et il est instrument. Alors, il est sacrement de la très sainte Trinité, c'est sûr. au sens le plus large, vous voyez. C'est important, parce que autrement, on va uniquement rétrécir. Et c'est le danger, du reste, de rétrécir. Alors, il faut comprendre que sacrement veut dire quelque chose de beaucoup plus... La sacramentalité de l'Église. Et la sacramentalité de l'Église est commandée par les sacrements. Les sacrements nous donnent ce qu'il y a de plus précis dans la sacramentalité de l'Église. Mais toute l'Église est sacrement, comme le mystère du Christ est sacrement. Alors, symbole, signe et efficacité, instrument. Et les sacrements forment cette synthèse. Alors, toujours, la définition de saint Augustin, rappelez-vous, hein, verbum ad elementum fit sacramentum. Ça, il faut le savoir par cœur. Verbum ad elementum fit sacramentum. La parole liée à l'élément, alors l'élément, vous comprenez bien, c'est le symbole. L'eau, le pain, le vin, ça c'est l'élément. Un élément plus ou moins complexe, mais c'est l'élément. L'huile. Verbum, alors la double réalité, la parole. La parole, elle est signe aussi. Et l'élément est symbole. Et donc il y a symbole et signe liés à l'intérieur du sacrement. Et l'efficacité. Et l'efficacité montre la différence entre les sacrements de l'Ancien Testament et les sacrements du Nouveau. Les sacrements de l'Ancien Testament ne sont pas producteurs par eux-mêmes de la grâce. Vous savez bien que c'est un des aspects les plus difficiles à faire comprendre à nos frères séparés. C'est le point de vue de, pas les orthodoxes, mais les protestants. C'est de comprendre que les sacrements opèrent ce qu'ils signifient. Ils opèrent ce qu'ils signifient au-delà de l'intention de l'opérant. Alors c'est ça que pour eux est toujours très très difficile à comprendre, parce qu'il dit, alors vous en faites de la magie. Je me souviens à Fribourg, où j'ai eu comme étudiant un jeune pasteur extrêmement intelligent qui était calviniste, et qui était venu à Fribourg pour faire de la philosophie après avoir fait toutes ses études à Lausanne. Il avait quitté en disant à Lausanne qu'il voulait former son intelligence, étant donné qu'on ne l'avait pas formé dans ses études théologiques, et qu'il venait à Fribourg faire de la philosophie de l'univers physique. Ben, il est resté à Fribourg pendant 6 ans. Un étudiant modèle, extraordinairement intelligent, qui vous posait de ses colles merveilleuses. Au séminaire, aux écoles merveilleuses, à tel point qu'il y avait un petit dominicain qui était à côté de moi. J'ai dit, faites attention, un de ces jours, il va me coller, il va arriver pour répondre. Alors, je dis, on invoquera le Saint-Esprit pour savoir s'il est vraiment très intelligent. Il avait une espèce d'intelligence mordante. Il n'était pas uniquement suisse, il était suisse et écossais. C'est pour ça qu'il était si intelligent. Vous voyez, il y avait le mélange et le cocktail des deux. Alors, il y avait toute la. L'anglo-saxon qui était là présent avec le suisse vaudois. Alors, il avait un irascible extraordinaire que les vaudois n'ont pas d'habitude parce qu'ils sont des vaincus. Voilà, c'est ce qu'on dit habituellement. Les vaudois sont protestants parce qu'ils ont été vaincus. Alors, c'est un protestantisme largué, tu vois. Alors, les Antilles se sont mis à plat ventre pour laisser les Bernois prendre possession de la petite histoire suisse au point du protestantisme qui est intéressante. Eh bien, toujours la même chose. C'était comprendre comment les sacrements peuvent être efficaces par eux-mêmes. Ex opere, non pas operantis, mais ex opere par lui-même. Ils sont par lui-même opéris, hein, c'est de l'œuvre lui-même. La grâce est donnée en fonction même du sacrement. Alors pour eux c'est un scandale. Alors je me souviens dans une discussion, et c'est dans la discussion que le Saint-Esprit vient vous éclairer, je lui ai dit, mais cher père, ou cher, je ne sais plus comment, s'appelait Benjamin, alors j'appelais Benjamin, cher Benjamin, vous dites que la parole de Dieu est efficace. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'était un évident. La parole de Dieu est efficace. Alors pourquoi la refusez-vous au sacrement? Il y a la parole de Dieu dans la parole. Alors, là, il n'a plus sûr rien dit. Comme quoi, il suffit tout simplement d'éclairer en ramenant sacrement la parole. Et c'est saint Augustin. Verbum ad elementum fit sacramentum. Et donc l'efficacité de la parole, elle demeure dans l'élément et à travers l'élément. Puisque c'est la parole de Dieu qui est efficace. Et la parole de Dieu est efficace par elle-même. C'est le propre de la parole de Dieu. Eh bien, les gestes de Dieu sont efficaces par eux-mêmes, et c'est ça qu'ils disent les sacrements, et c'est ça qu'on dit. Tandis que les sacrements de l'Ancien Testament ne sont pas efficaces par eux-mêmes, parce qu'ils étaient uniquement au niveau religieux. Les sacrements de l'Ancien Testament ne viennent pas de la foi, ils sont religieux, tandis que les sacrements de l'Église sont les sacrements de foi. Et donc, ils sont reliés directement à la parole, et c'est pour ça qu'ils sont efficaces par eux-mêmes. Ça, c'est une question très importante, hein, théologique. On trouve dans le Concile de Trente, du reste, on va le retrouver, ça. Mais c'est pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un sacrement. Un sacrement, c'est un symbole. Alors, vous voyez, la causalité formelle, si on essaie d'analyser, la causalité formelle et la causalité efficiente, qui sont réunies en vue de la fin. Et la fin, c'est la grâce. Les sacrements sont en vue de la grâce. Ils sont donnés pour la grâce. Ils sont pour les hommes, pour que les hommes reçoivent la grâce. Et alors, il y a donc l'aspect formel de la détermination de la parole et de l'élément, le symbole et le signe, l'efficacité instrumentale, et cette efficacité instrumentale est en dépendance du signe. C'est le signe qui détermine l'efficacité et qui nous fait comprendre l'efficacité. Et ça, c'est très important. Quelle est la grâce du sacrement ? La grâce du sacrement nous est donnée, nous est manifestée à travers le signe symbole. La grâce du baptême est exprimée par l'eau. C'est une grâce qui purifie. L'eau purifie. C'est une grâce donc de purification. La grâce du sacrement de confirmation, l'huile. L'huile pour les athlètes, qui donne la souplesse dans la force. Et ainsi de suite, vous voyez, l'imposition des mains pour l'ordination, le pouvoir, l'autorité qui est communiquée. Alors c'est toujours le signe, le symbole qui nous fait comprendre la grâce qui est donnée. Et pas l'inverse. Hein. Donc l'efficacité est soumise au symbole et au signe, en vue de la finalité. Alors, voyons, ça c'est simplement un rappel, puisque nous n'avons pas vu beaucoup ce que c'était que le sacrement, nous avons regardé le geste. C'est facile à comprendre quand tout ce qu'on a dit sur le geste, comment l'Église va préciser que les gestes du Christ vont être source des sacrements. Et ceci, nous le voyons directement dans le point de vue de la scène. Jésus, à la scène, a fait des gestes unis aux paroles. Et l'Église, en recevant ses gestes et ses paroles, comprend que c'est le sacrement de l'Eucharistie. Jésus n'a pas dit « je vais instituer le sacrement de l'Eucharistie ». C'est l'Église qui le dit. C'est l'Église qui dénomme ce geste « sacrement ». C'est l'Église qui prend conscience de ce représentant. Et en disant ça, elle précise ce que c'est. Ça, c'est évident, il y a une précision. Alors, on va préciser ici toutes les dimensions du sacrement de l'Eucharistie. En premier lieu, le Saint-Concile enseigne et professe ouvertement et sans détour que dans le vénérable sacrement de la Sainte Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est présent vraiment. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir, hein. C'est ce qu'il faut retenir. Ça c'est deux fois, c'est l'enseignement direct de l'Église, c'est pas une question de théologien, hein. On est thomiste ou scotiste, hein. Non, c'est l'enseignement de l'Église, donc ça on doit l'affirmer. Et quand on est en face de, alors, on doit toujours faire attention dans les discussions, surtout quand on est en face de prêtres, alors qu'on ne s'emballe pas pour être défenseur du dogme à travers tout, bon, faisons attention, quelquefois la meilleure façon de défendre c'est de se taire. Vous voyez dans quel sens, c'est pas la peine Les corrections fraternelles doivent toujours se faire quand on sait que c'est efficace. Quand on sait par avance que ce n'est pas efficace, on se tait et on prie. Ça, c'est du saint Thomas au point de vue de la prudence. Parce que c'est tout à fait inutile quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous sort des âneries, de vouloir à tout prix être défenseur de la vérité. C'est difficile de convertir un âme. Alors, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faudrait commencer par lui couper les oreilles, n'est-ce pas, et puis ensuite, dans le creux de l'oreille, lui faire comprendre certaines choses. Mais c'est pas comme moi du tout. Donc, il faut beaucoup mieux, très souvent, se taire. Et puis, c'est tout. On prie. Et si on vous demande, qu'est-ce que vous dites, vous? Ah, on le dit à ce moment-là. Autrement, on se tait. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. On entre dans la bataille. Alors retenez bien les formules, hein, parce que ça, il faut le retenir. Vrai Dieu et vrai homme est présent vraiment, réellement, substantiellement. Il y a les trois. Vraiment. Alors vraiment, vous voyez, c'est toujours le mot de Saint Jean, hein, à l'été. Hein, le vrai pain. Et le vrai pain, qui caractérise le point de vue d'une présence. C'est une présence, il est vraiment présent. Il est. Alors, pour être vraiment présent, il est réellement. Et comment l'est-il? Substantiellement. Vous voyez, il y a une gradation. Le dernier terme précise les deux précédents. Parce que c'est cette présence substantielle qui fait qu'elle est réelle et vraie. Et vraie. Et c'est ça qui commande tout. Mais alors, il faudra comprendre comment il est substantiellement présent. Donc, vraiment, réellement et substantiellement. Sous, alors comment, le pose, comment est-il? Sous l'apparence de ces réalités sensibles. Sous l'apparence de ces réalités sensibles. Sous l'apparence de ces réalités sensibles qui sont les éléments, le pain et le vin. Il n'y a en effet aucune contradiction à ce que notre Sauveur siège lui-même toujours à la droite du Père dans les cieux, selon un mode d'existence qui est naturel, c'est dommage qu'on n'a pas le texte latin à côté, mais je crois que c'est naturel, c'est physiquement, c'est physice, c'est la physis, hein. C'est qu'il est, donc, selon un mode d'existence qui est naturel, à ce que néanmoins il nous soit en d'autres lieux, sacramentellement présent. Donc, il y a la distinction à faire entre naturellement présent et sacramentellement présent. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Jésus, dans la gloire, est naturellement présent. Vous voyez, le naturel est surnaturel. C'est ça qui est terrible dans ces mots-là. Il est glorieusement présent. Et le glorieusement présent, c'est dans la résurrection, c'est l'humanité sainte du Christ qui est présente selon ce mode de gloire. Et donc, naturellement. Oui, le naturellement égale le surnaturel. Ça fait partie de la logomachie des théologiens. Au point de vue philosophique, comme bon on dirait, mais je ne peux pas dire autrement. Et quand il est dit naturel ici, ça veut dire ça. C'est vraiment son corps tel qu'il est, son corps qui a été formé par Marie, c'est ce même corps qui a été formé par Marie, qui a été crucifié et qui est glorifié. Mais alors il a un nouveau mode, une nouvelle manière d'exister. Il existe glorieusement, d'une façon glorieuse. Tandis qu'il existe selon une modalité différente dans le sacrement. Il est sacramentellement présent. En sa substance, dans un mode d'existence que nos mots peuvent sans doute à peine exprimer, mais que notre intelligence éclairée par la foi peut cependant reconnaître et que nous devons croire fermement comme une chose possible à Dieu. C'est très beau ce texte, hein, vous voyez bien. 735 dans cette Seigneur, hein, 735. Et c'est très fort. C'est un texte qu'on doit méditer, ça. Parce que c'est très puissant. Nos mots ne peuvent pas l'exprimer. Alors vous voyez comment le Concile, sans dire qu'il faut avoir une philosophie réaliste, le dit. Une philosophie qui est une philosophie purement analytique et qui confond le point de vue de la parole et le point de vue de l'intelligence. Vous voyez ce que dit le Concile? Et ça explique des quantités de choses, ça. Dans la philosophie moderne, dans la philosophie analytique, vous ne pouvez plus exprimer le mystère de l'Eucharistie. Le Concile le dit lui-même. Nos mots ne peuvent pas dire le mystère. Ce mystère est tellement extraordinaire que nos mots ne peuvent pas le dire. Mais notre intelligence éclairée par la foi peut cependant reconnaître et que nous devons croire fermement comme une chose possible à Dieu. C'est possible pour Dieu de réaliser une nouvelle modalité de présence qui est une modalité sacramentelle, qui est de la surabondance de l'amour. Les sacrements, c'est une surabondance d'amour. C'est parce que Jésus est dans la gloire, c'est parce que Jésus est mort sur la croix, qu'il y a cette présence de surabondance, présence d'amour. Je continue. 736. Ça, c'est les références classiques. C'est ainsi. Donc, vous prenez, si vous voulez prendre, je vous l'ai dit, c'est le décret sur l'Eucharistie de la 13e session. C'est ainsi que tous nos prédécesseurs qui ont vécu dans la véritable Église du Christ et qui ont traité de ce sacrement très saint ont professé très ouvertement que notre Rédempteur a institué ce sacrement si admirable à la dernière scène. Donc l'institution est faite directement par le Christ et le Christ comme législateur. C'est ça que nous devons ajouter, hein. C'est le Christ comme législateur. C'est très important parce que ça fait comprendre comment il y a dans le Christ prêtre cette fonction de législateur, le nouveau Moïse. Que notre Rédempteur a institué ce sacrement si admirable à la dernière scène, lorsque, après avoir béni le pain et le vin, il attesta en termes clairs et précis qu'il leur donnait son propre corps et son propre sang. Ces paroles rapportées par les saints évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et répétées ensuite par saint Paul, 1er aux Corinthiens. Alors, selon le mode historique, on devrait dire d'abord dites par saint Paul, puis ensuite données par les évangiles. Hein. Vous voyez bien. Mais selon un mode que prend le point de vue du concile, donc, on comprend très bien qu'il faut d'abord regarder les évangiles, puis les épîtres de saint Paul. Et répété ensuite par saint Paul, comportait cette signification propre et très claire, selon laquelle les pères les ont comprises, c'est véritablement la plus indigne des hontes de voir quelques hommes opiniâtres et pervers les ramener faussement à des figures de style. Simplement un langage symbolique, sans consistance et imaginaire, où se trouve niée la vérité du corps et du sang du Christ contre le sentiment universel de l'Église. Colonne et fondement de la vérité, l'Église déteste comme satanique, c'est pas le même style que Vatican II, hein. Vatican II, il a mis des gants au Saint-Esprit. Tandis qu'ici, c'est net, hein, c'est un style très 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 fort. Hein. Colonne et fondement de la vérité, l'Église déteste comme satanique ces imaginations inventées par des impies et d'une âme toujours reconnaissante et fidèle, elle reconnaît cet insigne bienfait du Christ. Donc, l'Église montre le testament du Christ. On doit le garder comme la prunelle de l'œil. C'est le testament du Christ. C'est bien ça que ça veut dire. Et que si on vient diminuer la force des paroles du Christ, eh bien, ça, c'est Satan. Satan, c'est celui qui conduit au mensonge. Alors, je continue de lire parce que ces passages sont importants. Donc, notre Sauveur, prêt de quitter ce monde et pour aller à son Père, a institué ce sacrement dans lequel il a, pour ainsi dire, répandu les richesses de son divin amour pour les hommes, laissant le mémorial de ses merveilles. Il nous a ordonné, en le recevant, de célébrer sa mémoire et d'annoncer sa mort, jusqu'à ce qu'il vienne en personne juger le monde. Oui, c'est très important. Il n'y aura pas d'interruption. L'Eucharistie demeurera jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a une interruption. Mais il a voulu que ce sacrement fût reçu comme l'aliment spirituel des âmes, qui nourrissent et fortifient ceux qui vivent de la vie de celui qui a dit « qui me mange vivra aussi par moi ». Et qu'il fût l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Il a voulu en outre que ce fût un gage de notre gloire future et de notre fidélité éternelle, et aussi le symbole de cet unique corps dont lui-même est la tête. Donc c'est le symbole du corps mystique, et auquel il veut que nous, ses membres, nous soyons étroitement attachés par des liens très serrés de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que tous nous tenions le même langage et qu'il n'y ait point parmi nous de division. Sacrement d'unité. Alors, la très sainte Eucharistie a ceci de commun avec les autres sacrements, qu'elle est le symbole d'une réalité sainte et la forme visible d'une grâce invisible. Voilà ce qui est commun. Autrement dit, il y a quelque chose de commun entre le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres. Mais c'est le premier, c'est celui qui donnera toute la signification aux autres. C'est dans le sacrement de l'Eucharistie que je dois comprendre le passage du geste au sacrement. C'est dans le sacrement de l'Eucharistie que je dois comprendre tous les autres sacrements. Donc, ce que représente le mystère de la sacramentalité. Et c'est dit, hein. C'est dit dans le Concile. Le symbole, donc voilà ce qu'il y a de commun au point de vue sacrement, le symbole d'une réalité sainte et la forme visible d'une grâce invisible. Mais ce qu'elle présente d'excellent et de particulier, c'est que les autres sacrements n'ont leur vertu sanctifiante que lorsqu'on les reçoit. C'est dans le mouvement des autres sacrements. Ils sont sacrements dans leur exercice. Alors que dans l'Eucharistie, avant même qu'on le reçoive, on a l'auteur de la sainteté en personne. Les autres sacrements sont par mode d'exercice, la motion divine est toujours dans l'exercice. Le sacrement de l'Eucharistie implique quelque chose de plus radical, oui, j'allais dire substantiel, alors que les autres c'est l'exercice, c'est l'acte, les deux grands axes, substance et acte. C'est quelque chose de substantiel. C'est quelque chose qui existe avant qu'on le reçoive. C'est évident, c'est le mystère de la présence. Vous voyez, et c'est intéressant parce que c'est ça qu'on refuse aujourd'hui. On accepte, beaucoup acceptent la présence de Jésus dans le sacrement, les protestants acceptent une présence réelle de Jésus dans le sacrement quand vous le recevez, mais pas en dehors de la réception. Donc on ramène le sacrement de l'Eucharistie aux autres sacrements. Et on oublie que le sacrement de l'Eucharistie est la clé de tous les autres sacrements, et la mesure de tous les autres sacrements. Donc il a quelque chose de plus. Il a quelque chose de substantiel. La présence. Pour Heidegger, vous savez bien, la substance c'est la présence. Alors, et on voit très bien la dépendance du sacrement de l'Eucharistie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est très vrai. La substance c'est la présence. Jésus nous est donné substantiellement, et c'est pour ça qu'il est présent. Il est présent avant de le recevoir. Je peux faire une visite au Saint-Sacrement. Je peux venir adorer Jésus dans l'Eucharistie. Et il a donné là. Tandis que je ne peux pas faire ça pour les autres sacrements. N'allez pas venir regarder l'eau du baptême en disant, oh, tiens, 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 cette eau. Elle est sainte puisqu'elle m'a servi au sacrement. Pas du tout. L'eau avant le sacrement, elle est... Mais au moment où vous le versez, au moment où vous le versez, la grâce passe. Vous ne la voyez pas. Mais la grâce passe. C'est extraordinaire. C'est invraisemblable. Et ça touche le front du petit. Et ça touche son âme. La grâce, pas l'eau. L'eau visible. C'est la même chose pour tous les autres sacrements. Les autres sacrements sont dans l'exercice. Vous voyez, cette manière de ramener le sacrement de l'Eucharistie aux autres. Oui, alors, mais ce qu'elle présente d'excellent et particulier, c'est que les autres sacrements n'ont leur vertu sanctifiante que lorsqu'on les reçoit, donc dans l'exercice, dans leur acte, mais que l'Eucharistie, avant même qu'on le reçoive, on a l'auteur de la sainteté en personne. En effet, les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur, que pourtant déjà ils affirmaient qu'en vérité c'était son corps qui leur présentait. Dans l'Église de Dieu, on a toujours cru qu'aussitôt après la consécration, le véritable corps de notre Seigneur et son véritable sang existent conjointement avec son âme et sa divinité, simultanément, consequenter, c'est l'expression de saint Thomas. Alors, vous voyez, conjointement avec son âme, le corps du Christ est présent, sacramentellement, et conjointement l'âme, et conjointement la divinité. Sous les espèces de pain et de vin, le corps est sous l'espèce du pain et le sang sous l'espèce du vin. En vertu des paroles, le corps est sous l'espèce. Pardon. Le corps est sous l'espèce du pain et le sang sous l'espèce du vin, en vertu des paroles. Mais le corps est sous l'espèce du vin et le sang sous l'espèce du pain et l'âme sous les deux espèces, en vertu de cette connexion naturelle et de cette concomitance qui unissent toutes les parties du Seigneur Jésus-Christ, déjà ressuscité des morts et qui ne mourra plus. La divinité l'est à cause de son admirable union hypostatique avec son corps et son âme. C'est pourquoi il est tout à fait vrai que l'une ou l'autre espèce contient autant que les deux espèces ensemble. Donc la communion sous le pain contient la même réalité que la communion sous les deux espèces. L'aspect sacrement, l'aspect, si vous voulez, de la manifestation est plus grande et plus visible sous les deux points de vue, mais la réalité profonde est la même. C'est pourquoi il est tout à fait vrai que l'une ou l'autre espèce contient autant que les deux espèces ensemble. Le Christ est, en effet, tout entier sous l'espèce du pain et tout entier sous la moindre parcelle de cette espèce et tout entier sous l'espèce du vin et sous toutes ses parties. Donc, c'est net. Alors vous voyez que le concile ne précise pas le lien qui existe, et c'est ça la très grosse difficulté au point de vue théologique, le lien qui existe entre le point de vue des espèces, qu'on appelle comme ça, des espèces du pain, et la présence du corps du Christ. C'est ça qu'on va essayer de préciser. Le corps est présent sacramentellement, c'est-à-dire sous les apparences du pain. Et le sang est présent sous les apparences du vin. Le sacramentellement exprime comme un voile visible qui cache l'invisible auquel il est lié. Et c'est le point de vue symbolique du sacrement qui s'exprime de cette manière-là. Mais la réalité profonde du sacrement, c'est ma foi seule qui touche. Mais quand vous touchez l'Eucharistie, le pain consacré, ne dites pas que vous touchez le corps du Christ, comme disent les gens de dévotion. C'est admirable, on touche le corps du Christ comme Marie a touché le corps du Christ. Mais non, écoutez, faites attention. Là, vous faites une petite erreur en disant ça. Vous ne touchez le corps du Christ que par votre foi. Et votre foi, ce n'est pas votre sensibilité. Il faut bien comprendre ça. Il faut avoir tout le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des espèces eucharistiques. Mais on ne touche pas le corps du Christ. On touche le corps du Christ par la foi. C'est sûr. Le corps du Christ n'a pas le goût du pain. Il n'a pas le goût du vin. Non, non. C'est la foi seule qui touche le corps du Christ. Et qui touche le sang du Christ. Vous voyez ? Je dis ça, c'est parce qu'il faut bien distinguer la dévotion de la foi. Quand on fait un blocage entre dévotion et foi, on diminue la foi. C'est terrible de diminuer la foi. La foi est contemplative et la dévotion, elle est religieuse et elle est sensible. Enfin, la dévotion, elle est sensible, ça, c'est sûr. Alors ne confondons pas les deux. Parce que si on confond les deux, ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour notre foi contemplative. Mais il ne faut pas supprimer la dévotion, c'est bien évident. Il ne faut pas supprimer le respect de l'Eucharistie. Vous voyez la réaction qu'il y a aujourd'hui hein, pour supprimer la dévotion. Alors, on considère pour rien, non, les espèces eucharistiques consacrées, non, on doit avoir le respect, puisque le corps du Christ est lié aux espèces. Mais il ne faut pas tomber dans une espèce de matérialisation de la foi et dire je touche le corps du Christ. Non. Je touche les espèces eucharistiques. Et le toucher une hostie consacrée ou une hostie non consacrée, au point de vue du toucher, comprenez bien, au point de vue du temps, du sens du toucher. C'est la même chose. Mais au point de vue profond, donc au point de vue de la foi, c'est totalement différent. Alors il faut bien saisir cela. C'est important. C'est important de bien saisir ce point de vue. Et c'est dit dans le concile. Hein, c'est l'enseignement direct de Dieu. C'est pas mon interprétation. C'est l'enseignement direct de l'Église. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. Ceci est mon corps. Hein? C'est ça qui est important à voir. C'est ça qu'on va préciser. Le mystère de la transsubstantiation. Il s'agit de bien le voir.